Donc les lectures cette semaine continuent à tourner autour de la nativité et de ses conséquences. C'est assez frappant de voir que l'Église nous a donné du temps pour contempler la crèche, contempler tout ce temps de Noël qui s'est achevé hier. Nous sommes passés dans le temps de l'épiphanie, c'est-à-dire de la manifestation. Et c'est impressionnant de voir que ce temps de Noël est finalement très bref, et que aussitôt à la fin de Noël, ben on part, quoi. C'est le départ. Les bergers sont repartis, les rois mages sont repartis, et la Sainte Famille est en train de partir à cause d'Hérode qui veut massacrer les enfants. Et donc on est tout de suite en mouvement. Et au fond, là, dans son épître, Jean nous dit deux choses importantes. La confession de la venue de Dieu dans la chair, c'est-à-dire Jésus, et sa conséquence. C'est l'amour du prochain. Au fond, on pourrait dire que Dieu est venu à nous dans la chair pour que nous allions vers les autres dans l'amour. Vous voyez, le salut, c'est toujours en mouvement. Ça n'est jamais statique. Le salut, c'est la vie. Et c'est déjà un signe de discernement. Quand on commence à s'apercevoir que les choses se stratifient, se durcissent, se rigidifient, arrêtent de vivre, eh bien, nous ne sommes plus dans le processus, dans un processus épiphanique de manifestation de Dieu. On thésaurise. Et au fond, ce que Jean nous dit, c'est que ne pas croire la venue dans la chair de Dieu, c'est se rendre incapable d'aimer son prochain. C'est quand même assez impressionnant, parce que ça veut dire tous ceux qui nient la divinité de Jésus, notamment toutes les religions qui nient la divinité de Jésus, sont incapables d'aimer leur prochain. Alors de fait, dans les livres de ces religions-là, il n'est jamais question d'aimer son prochain. On aime celui qui est comme soi. C'est-à-dire que, effectivement, dans l'Ancien Testament, il y a écrit, tu aimeras ton prochain. C'est qui ton prochain? C'est celui qui est de ta race. En islam, c'est exactement la même chose, hein. On doit aider, subvenir aux prochains musulmans. Et les autres, ils ne sont pas prochains. Et chez les juifs, c'est la même chose. Donc, vous voyez à quel point l'incarnation est le centre, le point de départ, l'énergie, la raison, enfin tout ce que vous voulez, de l'amour du prochain. C'est pour ça que c'est un commandement nouveau. Il n'est pas nouveau, c'était déjà écrit dans l'Ancien Testament, tu aimeras ton prochain. Mais prochain voulait dire proche, celui qui est de ma race, de mon sang. Et Jésus dit, tout le monde, parce que nous sommes tous appelés à être de la race de Dieu. Dieu s'est incarné pour que nous soyons divinisés. Et il n'y a pas que les juifs, il n'y a pas que ceci, que cela, il y a tout le monde. Donc, qu'est-ce que nous voyons dans le monde qui ne confesse pas du tout Jésus-Christ venu dans la chair? Ouais, il n'y a pas l'amour du prochain, hein? Il n'y a pas besoin d'être très... et de faire beaucoup d'enquêtes pour vous apercevoir que c'est quelque chose qui n'existe pas dans la vie quotidienne, dans la vie politique, dans la vie institutionnelle. c'est pas du tout, vous pouvez pas vous dire, ah bah celui-là il aime son prochain, hein. Bon, il rend un service éventuellement, je te l'ai rendu, tu me le rendras. C'est pas ça, aimer son prochain. Donc il faut discerner et voir que tout ce qui conduit à aimer son prochain vient de la confession de l'incarnation. Alors attention, hein, je ne suis pas en train de dire que quelqu'un qui ignorerait Jésus ne pourrait pas faire quelque chose pour son prochain. Ce ne sera pas un amour surnaturel, ce ne sera peut-être pas irrigué par le Christ, mais peut-être qu'en aimant son prochain autant qu'il le peut, celui-ci finira par confesser la divinité du Christ. Vous voyez, donc c'est un peu dans les... C'est pas dans les deux sens, c'est pas vrai. Mais c'est un fait qu'on ne peut pas aimer son prochain comme Dieu nous le demande en dehors du Christ. La raison est tout à fait simple, c'est qu'en dehors de Jésus, on ne peut rien faire. En dehors de la grâce, on ne peut pas. Alors ça met en rogne certaines personnes qui disent, si, je te prouverai que moi j'arrive. Oui, ben, tu ne me prouveras rien du tout parce que c'est pas possible. Voilà. Et donc, ben, l'épître s'achève sur la question de la vérité et de l'erreur, quoi. La vérité, c'est d'aimer son prochain. L'erreur, c'est de détester son prochain, ou de s'en méfier, ou de l'ignorer, ou de le détruire, ou que sais-je, le contraindre. Et donc, la vérité est irriguée par la nativité. Ben, vous pouvez prendre ça dans tous les sens que vous voulez, il n'y a pas le choix. Et alors dans l'Évangile, justement, il est question de... Il y a une phrase très curieuse dans l'Évangile, hein. Parce qu'en fait, l'Évangile s'ouvre avec ces mots à peu près en apprenant que Jean avait été arrêté. Jésus sort du désert, hein. Il y a eu la tentation au désert juste avant. Il n'avait pas les dernières news et il apprend que Jean a été arrêté. Et que fait Jésus? C'est tout de même assez étonnant. Alors on vous dit qu'il accomplit une prophétie. Oui, je suis pour. Il accomplit une prophétie. Et tout ça peut nous faire oublier la dernière phrase, enfin, alors, qui n'est pas la dernière de l'Évangile, mais qui est au milieu. Qu'est-ce qu'il fait Jésus? Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Alors vous, ça vous fait peut-être pas grand-chose d'entendre ça, mais si vous lisez Matthieu, l'évangile selon saint Matthieu, en commençant par le début, et en arrivant là, vous allez vous dire, mais c'est curieux ça, parce que le précédent qui disait ça, c'était Jean-Baptiste, justement. Donc vous voyez, Jésus reprend le flambeau de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui a dit celui qui était derrière moi est passé devant moi. Et Jésus passe derrière Jean-Baptiste. Il n'y a plus Jean-Baptiste, il est arrêté, il faut continuer à prêcher. Et il reprend le flambeau. Vous savez, un peu comme dans ces guerres où on relève l'étendard, quoi. Il n'est pas question que l'étendard soit par terre. Convertissez-vous. Voilà. Alors, c'est très très belle l'humilité de Jésus, qui, s'il y en a un qui se soucie de son prochain, c'est forcément Jésus, puisqu'il est né pour ça. Et lui, ça fait ni une ni deux, quoi. Hein. C'est je suis venu pour les prochains du monde entier. Je suis né pour ça. Et celui qui devait l'annoncer, le préparer, est mis en prison. Le roi est mort, vive le roi. Enfin, rien ne s'arrête, quoi. On reprend immédiatement le flambeau. C'est un témoignage bouleversant pour nous aujourd'hui, hein. Il n'est pas question que ça s'arrête. Il n'est pas question de prudence, il n'est pas question de discernement, est-ce que c'est opportun? Non, non, on y va tout de suite. Vous voyez, c'est quand même très très puissant hein, comme affaire. Et alors Jésus va ajouter quand même quelque chose pour commencer déjà à accomplir ce pourquoi il est venu, c'est-à-dire qu'il enseigne et il guérit. Il ne nous est pas beaucoup dit que Jean-Baptiste enseignait, et ni qu'il guérissait du reste. Donc vous voyez, Jésus va plus loin, mais il reprend le chemin du précurseur. Et en fait, enseigner et guérir, c'est quoi? C'est aimer son prochain comme soi-même. Donc vous voyez, en fait, dans cette épiphanie que nous continuons de célébrer dans cette semaine, nous voyons que cette manifestation, elle est orientée à une chose, l'amour du prochain. Jusqu'où? Il s'est livré pour moi, dira Paul. Alors ensuite, je ne sais pas si c'est une phrase qui vous touche, quoi. Oh, il s'est livré pour moi, ah, et bon, ah, bon, on est bien content. Tant qu'on n'a pas compris qu'on aurait dû être damné éternellement, on ne comprend pas ce que Jésus a fait pour nous. Peut-être il faut le dire autrement, il s'est livré à ma place. Peut-être, voilà. Et il faut prier pour que cette vérité théologique nous perce le cœur. Je dis bien percer, hein. Que nous soyons ravagés par cette, j'allais dire, cette injustice. Mais enfin, mais pourquoi tu as fait ça pour moi? C'est l'ouverture du dialogue. Et un jour, on entendra, mais parce que je t'aime. Et le mot aime prendra une dimension différente et on découvrira ce que Jésus fait pour nous, a fait pour nous, fera pour nous, et nous serons emportés dans l'amour du prochain. Voilà quoi, vous voyez, il s'est livré pour moi, hein, à ma place, pour que je vive, pour que je ne meure pas éternellement. Alors ça, ce sont des vérités qui ne sont accessibles progressivement que dans la prière. Alors, peut-être des exceptions, des gens qui sont foudroyés par ça. La prière, le contact avec Dieu, la lecture de la parole de Dieu. Demander au Seigneur, mais enfin, fais-moi comprendre ce que veut dire cette parole, ce qu'elle entraîne, parce qu'au minimum, ça devrait déclencher en nous une contrition, peut-être pas infinie, parce que je ne sais pas. Il ne faut pas tout le temps être sur ses péchés, mais une contrition amoureuse, et au moins. Et pourtant, nous constatons la dureté de notre cœur. On n'est pas tous partis. À la proclamation de l'Évangile, hein. Loin s'en faut. Voilà. Ça peut alimenter notre raison, notre prière, notre journée. Voilà. À chaque fois que nous disons, oh non, non, un truc qui est tombé par terre, non, je ramasse pas. Non, puis j'ai pas le temps. Vous allez me dire, quel est le rapport? C'est juste que vous pourriez faire un truc pour les autres. Oui, mais un papier, c'est rien. Bah justement, Dieu, il est mort pour toi. C'est pas rien, ça. Vous voyez, quand on voit tous ces petits efforts qu'on refuse de faire, et on découvre que Dieu, lui, il n'a rien refusé, quoi. Bon, je ne sais pas, hein, c'est une idée qui me traverse l'esprit comme ça. Voilà. Cette merveille, convertissons-nous.